Dimanche dernier, c'est la coalition nationaliste de Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni qui, avec un peu plus de 45% des voix, est arrivée en tête du premier tour des élections territoriales en Corse. Le second tour, dimanche prochain, désignera les représentants de la collectivité unique qui naîtra de la fusion des deux départements et de la région à compter du 1er janvier prochain. Bonjour Jérôme Fourquet, vous êtes politologue. Vous avez notamment publié la nouvelle Question Corse aux éditions de l'Aube. Ces résultats vous ont-ils surpris ?
Alors oui et non. Non dans la mesure où on est dans une dynamique de victoire qui s'est enclenchée depuis 3 ans maintenant pour les nationalistes, qui commence en 2014 lors des municipales par la conquête de Bastia, par déjà le même Gilles Simeoni qui défait l'héritier de la famille Zuccarelli qui contrôlait Bastia depuis des années. Ensuite, deuxième étape dans les dominos qui s'écroulent les uns après les autres, les régionales de 2015, où de nouveau Gilles Simeoni et cette fois Jean-Guy Talamoni remportent les élections régionales et deviennent les patrons de la région Corse. Et puis, troisième réplique à tout cela, aux législatives de juin dernier, sur les 4 circonscriptions corse, les nationalistes, fait historique, en remporte 3. Donc on voit qu'il y avait cette dynamique.
Cette tendance.
Voilà. Là où c'est plus, de mon point de vue, plus étonnant, plus surprenant, c'est l'ampleur du score de premier tour. 45%, vous l'avez rappelé, ce qui est énorme. Pour fixer un peu les choses pour vos auditeurs, la liste qui arrive en deuxième position, la liste de droite régionaliste, donc elle aussi régionaliste, obtient 15%. Donc il y a une avance de 30 points, et donc c'est quasiment irrattrapable. Et si on veut être complet, on peut ajouter qu'il y avait une liste nationaliste dissidente qui fait plus de 6%. Donc à eux deux, et c'est jamais arrivé en Corse, les nationalistes sont majoritaires. La dernière fois, en 2015, ils avaient gagné dans une quadrangulaire avec 35% des voix. Là, ils vont sans doute faire beaucoup plus dimanche prochain.
Et justement, si on essaye de distinguer les indépendantistes et les autonomistes, que peut-on dire, Jérôme Fourquet ?
Alors en fait, on regroupe tout cela sous le vocable de nationaliste et on a deux tendances. On a la tendance dite indépendantiste, qui est représentée par Jean-Guy Talamoni. Donc comme son nom l'indique, leur objectif politique affiché, c'est à terme, et le mot est important, pas tout de suite, l'indépendance de la Corse.
C'est quand, à terme ?
Là, ils disent on a une échéance de 10 à 15 ans pour transformer la Corse. Un de leurs slogans, c'est en Corse, c'était un pays à faire, à construire. Donc ces indépendantistes, eux, clairement, affichent la couleur et souhaitent à terme l'indépendance. Mmh. Et l'autre tendance, c'est celle des autonomistes, qui est plus importante numériquement, celle de M. Simeoni, qui, lui, revendique davantage d'autonomie tout en restant dans le cadre de la République française. Et on les regroupe dans le vocable commun de nationalistes parce que ils ont tous en commun la volonté d'une plus grande décentralisation, d'évolution, comme on dirait dans le monde anglo-saxon, des pouvoirs et d'une meilleure prise en compte des spécificités de l'identité corse.
Alors vous avez repris dans votre livre La Nouvelle Question Corse, Jérôme Fourquet, un certain nombre de statistiques électorales. Et là, on voit, alors pour les précédentes élections évidemment, que les villages n'ont pas tous voté de la même façon. Les régions corse aussi, il y a beaucoup de variétés de comportements électoraux.
Oui, alors c'est un objet d'étude très intéressant parce que c'est un petit territoire, il y a 300 000 habitants, mais il y a des contrastes assez marqué. Et ce qui nous avait frappé, c'est en fait que c'est un élément de la victoire de ces nationalistes, leur capacité à mailler un petit peu le territoire et aussi à bénéficier de la dislocation des vieilles structures claniques qui, pendant des décennies, ont assuré le pouvoir d'un certain nombre de familles. Donc on avait parlé des Zuccarelli à Bastia. Aux dernières législatives, et ça s'est confirmé dimanche dernier, dans le sud de l'île, dans la région de Porto Vecchio, c'est Camille de Rocasser qui a été battu. Camille de Rocasser, sa famille dirige la mairie, puis contrôle la circonscription depuis des décennies. Et la troisième figure emblématique, Paul Giacobbi, qui était lui radical de gauche et qui était le patron de la Haute-Corse, qui a été condamné pour des affaires de détournement de fonds publics. Eh bien, on a vu que toutes ces structures claniques qui contrôlaient via les maires des villages, qui avait un rôle prescripteur, on va dire, assez important. Tout ça s'est disloqué progressivement. Et les nationalistes ont préempté, si vous voulez, sur l'île, la vague dégagiste. C'est pour ça aussi que les macroniens ne font pas des bons scores en Corse. Depuis très longtemps, un des combats des nationalistes, c'est la lutte contre le clan. Et ils incarnent aujourd'hui le renouvellement politique.
Vous parlez des macroniens. Que peut faire Emmanuel Macron aujourd'hui, Jérôme Fourquet ?
Et c'est aussi une des grandes questions. Parce que Emmanuel Macron, quand il est venu en Corse pendant la campagne présidentielle, a proposé un pacte girondin. Donc on voit que là, on pourrait s'accorder avec la volonté d'autonomie accrue qu'ont manifesté les Corses. Mais en même temps, le même Emmanuel Macron a une attitude très carrée sur le dossier catalan, hein, en reconnaissant plein et entier pouvoir à Madrid. Et puis, il y a quelques semaines, on célébrait le 500e anniversaire de l'édit de Villers-Cotterêts qui rendait le français obligatoire dans les actes officiels. Il expliquait à des collégiens qui assistaient à cette cérémonie que notre pays s'était construit autour de sa langue et qu'avant l'édit de Villers-Cotterêts, on parlait le patois en France. Et donc, pour des nationalistes corses qui revendiquent la co-officialité de la langue, eh bien, on va voir, c'est pas forcément très simple. Et donc, tout l'enjeu, notamment aussi dans la perspective de la Nouvelle-Calédonie, hein, c'est de voir comment le nouveau pouvoir, Emmanuel Macron, intègre cette demande d'autonomie d'un certain nombre de territoires et quel est le rapport finalement d'Emmanuel Macron à l'État-nation.
Donc une difficile équation pour le cas Corse. Le parallèle entre la Catalogne et la Corse, il est fondé ou pas ?
Alors Gilles Simeoni a rappelé à juste titre dans une tribune du Monde que la Catalogne ou que la Corse n'était pas la Catalogne. C'est évident du plan de vue économique et c'est ça aussi qui freine les velléités d'indépendance parce qu'il n'y a pas de Barcelone en Corse et le PIB corse est 0,4% du PIB national, hein, donc il n'y a pas les moyens économiques. En revanche, là où il y a un certain nombre de traits communs, c'est que on voit que toute une partie de la société corse, et notamment dans les jeunes générations, a été irriguée par le regain d'intérêt autour de la langue, par la culture, par toute une série d'associations, dans une ambiance, une sensibilité nationaliste ou identitaire. Hein, et on voit, à l'instar de ce qui se passe en Catalogne, que le système éducatif, notamment, a produit derrière, quelques années plus tard, des effets électoraux. Il y a une université en Corse, c'est l'université de Corte, où on enseigne la langue corse, l'histoire corse, et où les syndicats nationalistes étudiants sont ultra majoritaires. Uh-huh. Et tout ça a constitué un vivier, un bouillon de culture qui était favorable électoralement après.
Merci beaucoup, merci Jérôme Fourquet. La nouvelle question corse, on apprend plein de choses sur cette île finalement assez méconnue sur le plan électoral. C'est aux éditions de l'Aube, c'est votre livre, Jérôme Fourquet.